Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà, inshallah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, j'ai écrit le livre « Ton dernier regard » et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma Oumi, ma maman, et surtout sa magnifique mort, Rabbi Arhama. Tu peux télécharger l'extrait de mon livre gratuitement dans les descriptions de l'épisode. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, ici le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Installe-toi confortablement et bonne écoute. J'espère que tu vas bien. Alors normalement cet épisode de podcast sort pendant le mois de Ramadan. Alors, pour être tout à fait honnête et transparente, j'enregistre ce podcast avec un petit peu d'avance. Je prends de l'avance parce qu'après je vais être focus sur mon projet et puis pendant le mois de Ramadan je vais vouloir profiter pleinement. Le mois de Ramadan dernier je m'étais lancé le challenge d'un épisode par jour. Bon, clairement ça va pas être ça, c'est pas ce qui va se passer pendant celui-là. Mais j'ai choisi donc d'enregistrer cet épisode avec un petit peu d'avance, comme ça il y en a quand même qui sortent. Et surtout, le sujet de cet épisode est tellement beau, il est tellement important, il est tellement, je dirais, sous-côté, que je me suis dit, voilà, c'est une bonne chose qui sorte pendant le mois de Ramadan, qui est le mois où on a envie d'œuvrer pour Allah, le mois où on a envie de se rapprocher d'Allah, le mois où on a envie de construire notre akhirah, le mois où on a envie... Quand la spontanée nous accorde le fait d'avoir, quand la soit satisfait de nous, quand le mois du repentir, le mois du retour vers Allah, le mois du jeûne, le mois où on œuvre secrètement pour Allah, le mois où on se lève pendant la nuit pour prier Allah pour obtenir son amour, son pardon, son paradis, on souhaite sa rencontre. Donc c'est le mois où on a envie d'œuvrer, où il y a un nouveau souffle, on a une nouvelle énergie. D'ailleurs, toi tu m'écoutes, c'est Ramadan, moi je t'avoue que là, la Oumeima du présent, elle est pressée d'être pendant ce mois de Ramadan. D'ailleurs, ça me fait bizarre de l'enregistrer en avance parce que je me dis, mais est-ce que je vais être en vie en fait le jour où l'épisode va sortir? Ça fait un peu peur. Bon, j'espère que je serai là et que j'œuvrerai très 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 fort pour Allah. Donc voilà, c'est une très belle thématique, c'est un très beau sujet. En plus, il y a des beaux hadiths, il y a des beaux versets. Enfin, vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à préparer cet épisode. Pour être honnête, ah oui, je fais une petite parenthèse, il y a du bruit. J'ai mis le chauffage, excusez-moi, il fait froid chez moi. Hein. Donc j'ai mis le chauffage. Je suis désolée, du coup, il va y avoir un petit peu de bruit en arrière-fond. J'espère que ça ne sera pas trop embêtant. Donc voilà, ce que je voulais dire avant de démarrer. En vrai, cet épisode, je l'ai préparé il y a quelques temps. Et j'ai commencé à l'enregistrer une première fois. J'étais lancée, j'ai parlé, je crois, pendant 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, je me rends compte que ça n'enregistrait pas. Mon logiciel d'enregistrement s'était arrêté, voilà, comme ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Et en fait, j'avais parlé 20 minutes, voilà. On va pas dire dans le vide parce que ça m'avait fait beaucoup de bien. Donc c'était un rappel pour moi. C'était vraiment un rappel 100% pour moi. Et ensuite, je l'ai réenregistré une autre fois. J'ai fait 15 minutes. Et à peu près 15 minutes. Et ensuite, ou peut-être un peu moins, mais ensuite je m'arrête. Cette fois-ci, c'est par moi-même. Je sais pas pourquoi, j'étais plus dedans. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup enregistrer mes podcasts avec le cœur. Je vise pas forcément la perfection dans mes podcasts. Par exemple, là, voilà, il y a du bruit un peu. Mon introduction, elle dure des plombes. Ok. Je sais que c'est pas parfait. Je sais que c'est pas hyper pro, hyper carré et tout. Mais ça me dérange pas tant que le cœur y est. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de le faire avec le cœur, de le faire en transmettant quelque chose. Et des fois je suis pas là, je suis peut-être un peu fatiguée, un peu déconcentrée, émotionnellement c'est pas trop ça. Et donc je vais parler pour parler ou bien juste vous citer des hadiths comme ça. J'ai des notes, hein, donc je pourrais, dans tous les cas, je pourrais toujours enregistrer un épisode et vous citer les choses comme ça, mais sans y mettre du cœur. Bon, franchement, ça m'intéresse pas et je préfère rien poster plutôt que partager un truc qui finalement ne va pas du cœur vers le cœur, mais va de la tête à la tête. Ça m'intéresse pas. Voilà. Je pense en fait que quand tu, je sais pas, je pense que quand tu transmets les choses avec le cœur, avec, je sais pas comment expliquer, mais avec vraiment avec l'envie de partager quelque chose, l'envie de partager un message, l'envie de transmettre l'amour d'Allah, l'envie, tu vois, ça, je trouve que ça touche les cœurs. Mais si je venais et que je venais en me disant, ok, je vais leur apporter des informations importantes, voilà, à leur tête, quoi, ça marche pas. Bref. Donc je réenregistre cet épisode. C'est pas facile. Franchement, c'est pas facile de le faire pour la troisième fois. Au début, j'étais presque un peu découragée en me disant, oh là là, c'est bon, allez, j'ai plus envie d'enregistrer cet épisode. Et puis, Starfly, et puis je me suis dit, Mima, tu sais, dès que tu parles de quelque chose d'important, comment dire, pour Allah, les chétans, ils... Parce que faut pas oublier que cet épisode, moi, je suis là dans ma cuisine. Assise en train d'enregistrer l'épisode. Ouais, j'enregistre aujourd'hui. Aujourd'hui, je le fais dans ma cuisine, parce que mon mari est dans le bureau. Donc, je suis toute seule et tout, donc j'ai l'impression que, enfin voilà quoi, je suis toute seule. Je me rends pas vraiment compte, mais en vrai, vous êtes quand même des bah, il y a quand même des millions d'écoutes, et chaque épisode fait quand même des dizaines de milliers d'écoutes, hein, machallah. Donc c'est quelque chose, je veux dire, vous êtes là, vous écoutez, même si je vous vois pas. Et donc le message, il se transmet, la da'wa, elle se fait. Et ça, c'est pas quelque chose qui plaît au shaitan. Donc forcément, il va me mettre des bâtons dans les roues. Et là, je vous parle de ça, c'est aussi pour vous, quand des fois, vous avez l'intention de faire quelque chose et vous avez envie de faire un bien, vous voulez faire un khair, quel qu'il soit, et vous avez l'impression qu'il y a des obstacles, etc. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est juste des fois, en fait, quand vous faites, voilà, quand vous voulez faire un bien, bah, le chétan, il est là pour vous empêcher de le faire, parce que lui, il veut pas que le bien se propage, il veut pas que le bien se grandisse, et donc il va tout faire pour te faire arrêter, pour te faire abandonner, pour te faire lâcher. Ça, c'est systématique. Et il y a une sœur qui me l'avait dit sur Insta, et ça m'avait beaucoup touchée, elle m'avait encouragée, parce que voilà, moi-même, des fois, j'ai des doutes et tout, j'ai des périodes comme ça. Et subhanallah, pendant une phase de doute sur le projet, notamment MFX, eh bien, elle venait de lire mon livre et elle m'avait dit une très belle parole en me disant, Mima, franchement, quand t'as un projet utile pour la Ummah, ne le lâche pas. Sache que le shaitan, il va venir te mettre des bâtons dans les roues, te décourager, t'empêcher, etc., etc., te mettre des obstacles. Mais vraiment, ne lâche pas, parce que ça vaut le coup, en fait. Et c'est un bien que tu... que c'est un bien, quoi. C'est un grand bien pour la Ummah. Donc, faut... Voilà. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup encouragé. Et donc... Et aussi, pourquoi je parle de ça? C'est un lien avec avec l'épisode du jour. Mais c'est vrai que j'ai eu aussi une sœur, une fois, sur un DM, qui m'a dit... Je sais plus ce qu'elle voulait faire comme rire. Je sais plus ce qu'elle voulait faire comme bien. Et en fait, elle me disait, voilà, j'ai fait deux, trois tentatives, mais à chaque fois, ça marche pas. Je crois qu'Allah, il veut pas. Allah, il veut pas que je me rapproche de lui. Allah, il me punit. Allah, il veut pas que je fasse ce bien-là, etc. Oh! Moi, j'étais choquée. J'étais là, mais non, il faut jamais dire ça. C'est pas vrai. Jamais. Allah, il t'aime. Allah, il veut pour toi le paradis. Allah, tu sais, c'est Huwa Rahman Rahim. Il veut que du bien. Il faut jamais avoir une mauvaise opinion d'Allah. Tu vois? Non, tu vois, surtout pas. Tu vois, et au contraire, et en plus, Allah, il aime te voir déterminé. Il aime, au contraire, Allah, il aime voir que tu persévères dans le bien et que tu continues à faire des efforts pour te rapprocher d'Allah. Et moi, comme j'ai dit, hein, les bâtons dans les roues, je pense tout simplement que c'est Shaitan qui te les met devant toi pour parce que lui, par contre, lui, lui, il ne veut pas effectivement que tu fasses un bien, mais jamais avoir cette pensée d'Allah, jamais, jamais, jamais. Donc voilà, toujours avoir une bonne opinion. Mais ça, on va en parler après. Bon, voilà, c'était la petite intro. C'était ma petite introduction, enfin petite, un peu grande, mais enfin bon. Bismillah. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de justement du sujet de comment on fait pour parler à Allah, comment est-ce qu'on parle à Allah. C'était une question qu'on m'avait posée sur Insta, et j'avais bien aimé, parce que je m'étais dit, mais oui, c'est vrai, c'est la base. Et en même temps, c'est intéressant quand même de se questionner, et puis je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des personnes qui avaient peut-être des a priori et tout. Donc c'est-à-dire par exemple, voilà, il y a peut-être des gens qui sont intimidés à l'idée de parler d'Allah. Il y en a peut-être qui se disent, il faut que je lui parle qu'en arabe. Donc du coup, ils se limitent. Il y en a qui pensent que, enfin, je sais pas, qu'ils peuvent parler à Allah que dans sous certaines conditions. Donc voilà, donc c'est un sujet qui est vraiment important et vraiment intéressant à aborder. Juste encore une petite note avant de démarrer. Je t'invite à écouter ce podcast avec le cœur, comme je l'ai dit au début. C'est pas un podcast c'est pas un épisode que je transmets, c'est pas un message que je veux transmettre de la tête à la tête, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est un message que je veux transmettre de cœur à cœur. Et donc, là, le deal, c'est que tu aies le cœur ouvert. Tu peux être occupé en même temps, hein. Tu peux faire ton ménage, tu peux faire ta vaisselle, tu peux conduire en voiture, tout ça. Tu peux aussi être posé tranquillement sous ton plaid avec ton petit chocolat chaud. Ah non, c'est Ramadan. Ou le soir, voilà, le soir, après les taraweeh, petite tisane. Mais le plus important, c'est que tu aies le cœur qui est ouvert. C'est-à-dire que vraiment, tu sois prête à accueillir le message aujourd'hui. Et moi-même, c'est un message, et moi-même je transmets ce message à moi-même et j'espère le faire avec un cœur ouvert et accueillant parce que chaque rappel que je fais ici est d'abord pour moi. Je suis loin d'être parfaite, hein, tu sais déjà, j'en ai déjà parlé suffisamment sur ce podcast. Et donc, moi-même, j'en ai besoin, et moi-même, j'ai envie de me rapprocher d'Allah, et moi-même, j'ai envie de plus parler d'Allah. Donc, moi-même, je pars avec cette intention que cet épisode-là me booste, me motive et me donne encore plus envie d'être toujours en lien avec Allah, toujours lui parler en secret, lui parler dans mes doigts, lui parler pendant ma prière, etc., etc. Mais d'être toujours en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala dans mon cœur. Et c'est ce que je t'invite aussi. Donc partir avec cette intention qu'à la fin de l'épisode, t'aies envie d'être toujours, toujours en train de parler Allah, toujours parler Allah, toujours parler Allah avec le cœur, avec la langue, avec les pensées, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Une des premières choses que j'ai envie de te partager, c'est l'importance en fait, l'importance de parler à Allah, d'invoquer Allah. Il y a ce hadith qui est très fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure adoration, c'est l'invocation. Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Cheikh Albani dans Silsila Sahha numéro 1579. La meilleure adoration, c'est l'invocation. La meilleure manière d'adorer Allah, c'est les doigts. C'est un truc de fou quand même. Parce que, comme je disais, ça peut être sous-côté, tu vois. Tu peux avoir l'impression que, enfin voilà, bien sûr, il y a beaucoup d'œuvres qui sont importantes. Tu vois, la zakat, le jeûne, etc. Mais la doha, l'invocation, c'est essentiel. Et franchement, en fait, je me suis dit, c'est fou, parce que du coup, ça m'a fait réfléchir en me disant, mais pourquoi, en fait, pourquoi c'est tellement, tellement important? Parce que je dirais que si tu fais les choses, si tu fais le jeûne, et si tu fais la prière, et si tu fais les invocations, etc., mais sans communiquer avec Allah, en faisant les gestes un petit peu genre, ok, je dois les faire, voilà, je récite les choses, j'ai appris, je fais les choses bien, d'accord, mais je suis que là dans le matériel en fait, juste là en train de faire les choses sans parler à Allah, mais tu vas pas profiter de ce que tu fais. Et surtout, comment dire, tu sais, l'invocation, c'est particulier en fait. Si tu parles à Allah, tu demandes à Allah, tu racontes à Allah, en fait tu crées un lien qui est profond. C'est différent, je pense, des autres œuvres. Et il y a de la profondeur, il y a de l'intimité, il y a du secret, il y a de la sincérité. Tu vois, je veux dire, la personne que tu aimes, t'as juste une envie, c'est d'être avec elle, de papoter, de passer du temps, etc. C'est ta meilleure amie. Quand il t'arrive des choses, qu'est-ce que t'as envie de faire? T'as envie de l'appeler. Il t'arrive une bonne nouvelle, t'as envie de l'appeler tout de suite pour lui raconter. Ah là là, devine quoi, il m'est arrivé ça, 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 ça. Il t'arrive une mauvaise nouvelle, une épreuve, tu vas l'appeler pour rechercher son réconfort, son soutien. Tu veux qu'elle soit là pour toi, tu veux qu'elle vienne, tu veux qu'elle te prenne dans ses bras, qu'elle te rassure, etc. Et toi, t'as envie de te décharger, t'as besoin d'un service, etc. Tu veux pouvoir compter sur elle. Donc, et en fait, plus t'es dans cette relation de communication, etc., plus tu te sens proche d'elle, tu lui racontes tes secrets, etc., des choses que tu racontes à personne d'autre, on est d'accord que ça crée un lien quand même qui est fort, qui est profond, tu vois, c'est C'est pareil quand t'es avec ton mari, dans les liens de l'amour, etc. On le sait, la communication, c'est la chose la plus importante. On a besoin de se sentir écouté, on a besoin de se sentir aimé, on a besoin de raconter, on a besoin de parler, on a besoin d'avoir un espace où on parle, etc. Mais en fait, je pense qu'avec l'invocation, avec le fait de parler à Allah, de créer ce lien d'attachement à Allah, subhanahu wa ta'ala, ce lien où je parle à Allah dans toutes les situations, je suis en fait, je suis constamment en contact avec Allah, eh bien, ça crée une relation qui est riche, une relation qui est belle, une relation qui est profonde, une relation qui est pleine d'amour, une relation qui est vraiment profonde, tu vois. Il y a des personnes, tu les vois, t'as l'impression qu'elles font les mêmes œuvres que les autres. Et pourtant, quand t'es avec elles, tu sens qu'il se passe un truc. Tu sens qu'elles ont un lien spécial avec Allah. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer une personne et de te dire « purée », elle, ça se voit, elle a un lien avec Allah. Elle, ça se voit, je sais pas, elle dégage quelque chose, elle dégage un nour, elle dégage une sekina, elle dégage quelque chose de particulier. J'ai rencontré des personnes comme ça. Je vais pas mentir, j'en ai pas rencontré beaucoup, mais j'ai rencontré des personnes comme ça. Je pense à ma mère, je pense à une autre amie à elle, je pense à des khalti et tout. Et il y en a qui m'ont profondément marqué. Et moi, pour ma mère, je peux clairement le dire parce que je l'ai vue, etc. Ma mère, elle était tout le temps, elle avait... je pense que c'était ça aussi son petit secret, hein. C'est qu'au-delà des œuvres qu'elle faisait, donc elle faisait du bien, elle faisait de son mieux, elle faisait quand même pas mal de choses, machallah, donnait des cours, elle faisait des qam, il y a des choses qu'elle faisait, elle faisait des prières surrogatoires, lisait le Qur'an, etc., etc. Mais je crois que la richesse de son lien avec Allah, il venait d'abord et avant tout du fait qu'elle lui parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, elle lui parlait tout le temps, elle était tout le temps en train de parler. Soit elle parlait de lui aux autres, et on va voir après aussi hein, le fait de parler d'Allah aux autres, mais également le fait de parler en secret à Allah. Je pense que le fait de parler d'Allah aux autres, c'est quelque chose de magnifique. En fait, elle avait la langue qui était tout le temps, soit elle était dans le décor, ma mère, donc par exemple elle fait la vaisselle, elle fait à manger et tout, et là elle dit Allah, tu vois, elle va dire Subhanallah, bihamdi, Subhanallah, al-Azim, la ilaha illallah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. En fait, pendant qu'elle faisait son ménage, etc., elle était en dhikr, ok. C'était une habitude qu'elle avait. Elle sort se promener, elle fait ses adhkar, etc., etc. Soit elle parlait d'Allah, elle est au téléphone avec sa copine, elle lui donne des conseils, elle parle d'Allah, nanana, etc., etc. À nous, ses enfants, elle nous faisait les rappels et tout. Et soit elle était dans l'intimité, en secret, et elle parlait à Allah. Et moi, je le voyais parce que, voilà, je vous le dis souvent dans le podcast, ces petits moments où... en fait, c'est fou parce que vraiment, je vous en parle. Et en fait, j'ai une image précise. Je sais pas c'était quel jour, je sais pas pourquoi j'étais dans sa chambre, mais je traînais souvent dans sa chambre, j'aimais trop. En fait, parfois, je sais pas, je voulais parler avec ma mère. Et en fait, je l'attendais dans la chambre. Donc, j'étais sur son lit et elle était dans son petit coin, son petit cocon. Et elle faisait la prière. Et donc, en général, c'était des prières surrogatoires. Et puis moi, je l'attendais dans le lit comme ça. Je sais pas ce que je faisais en même temps, mais voilà. Et donc, je la voyais, elle était là. Elle prenait son temps, elle était en soujoud. Elle parlait, enfin, elle restait longtemps en soujoud. Donc, ça voulait dire qu'elle parlait beaucoup, beaucoup à Allah. Elle pleurait. Et puis, elle terminait la prière tranquillement. Et elle continuait à lever les mains aux cieux et au ciel. Et elle continuait à parler à Allah, elle continuait à l'invoquer, elle continuait à pleurer. Et après, elle terminait et tout. Et après, on se posait, on papotait. Donc voilà, donc j'ai une image précise en fait, vraiment quand je vous le dis, j'ai encore le hijab d'El Sala qu'elle portait, c'est-à-dire sa tenue de prière qu'elle portait bleu marine, je la vois encore en fait, je vois encore son visage, je vois encore son émotion, c'était vraiment beau et c'était vraiment fort, subhanallah. Rabbi irhamha, Rabbi jmana ma'a firdaus, franchement c'est tout ce que je rêve, voilà, c'est juste d'être avec elle au paradis, elle me manque tellement. Enfin, c'est pas le sujet. Subhanallah. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour en revenir, c'est que le fait de parler à Allah, ça crée un lien d'une richesse, d'une profondeur et d'un amour qui est particulier. En fait, tu deviens, je ne sais pas comment expliquer, mais tu as un statut spécial. Et je vais vous dire un truc, en fait. Comment dire ? Plus toi, tu parles à Allah, plus tu vas sentir sa présence, son amour, etc. Plus tu t'éloignes de ça, moins tu parles à Allah, plus tu te sens loin, tu vois. Moi-même, je le vois par rapport à ma propre expérience. Les moments où j'ai senti ma foi était la plus haute et c'était le plus facile d'œuvrer et j'avais le plus envie d'œuvrer. Enfin, tu vois, ce moment où ta foi, elle est haute, quoi, et t'es boostée et tout. Franchement, ces moments-là, c'était les moments où je pense à Marambra, je pense à d'autres moments. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces moments-là? C'est que j'étais tout le temps en train de parler à Allah. Tout le temps, je parlais à Allah. Je faisais énormément d'invocations. Après, vous imaginez bien, hein, tu sais, quand tu es en Umrah, que tu fais Safa al-Marwa, ou bien que tu fais Tawaf devant la Kaaba et tout, tu vois. Les circonvallations autour de la Kaaba. Mais crois-moi que. Et tu sais que voilà, les doigts, ils sont exaucés et tout. Mais tu fais que ça, quoi. Les doigts, les doigts, les doigts, les doigts. Tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas. Tu voudrais même que le temps s'arrête pour que tu puisses faire tous les doigts que tu as envie de faire. T'en as pas. Tu vois, tu ne te lasses pas des invocations. Tu vois, tu as envie d'en faire au maximum. Et qu'est-ce que tu te sens proche d'Allah à ce moment-là? Qu'est-ce que je me sentais proche d'Allah à ce moment-là? Et quand après, tu vois, tu reviens, tu es dans ta routine, machin, et tu fais les choses avec plus de tu vois, plus machinalement, et que les sujouds, bah, c'est plus court, ou bien alors tu fais les invocations, mais t'as vu, c'est vite fait, quoi. Tu sais, c'est automatique et tout. Non, je le sens tout de suite. Je sens tout de suite que je m'éloigne. Vraiment, je sens tout de suite que je m'éloigne. Il n'y a plus cette richesse dans le lien, il n'y a plus ce lien fort. Tu fais la base, quoi. Et tu fais les choses, tu fais ce que tu as à faire, mais tu vois, ça devient un lourd, c'est un devoir, mais il n'y a plus cet amour, en fait, il n'y a plus cet élan. Et cet amour, cet élan, ça vient, je crois vraiment que ça vient de là, que ça vient dans le fait de parler à Allah, de communiquer avec Allah. Moi, je me rappelle d'ailleurs que dans mon épreuve, les moments les plus durs, au moment où j'ai le plus souffert, etc., c'est les moments où, paradoxalement, ma foi était la plus élevée et c'est le moment où je me suis sentie le plus proche d'Allah. Je me suis éloignée des autres personnes, j'avais envie de parler à personne de ma peine, je me sentais pas comprise. Je me suis éloignée de mes amis, je me suis éloignée de ma famille, je me suis éloignée de tout le monde. Mais c'est vrai que je m'étais beaucoup rapprochée d'Allah et je ne trouvais qu'Allah pour m'apaiser, quoi. Et en fait, j'étais tout le temps en train de parler à Allah à travers le dhikr, à travers les doigts, les doigts, les doigts, les doigts. Et puis juste des fois parler, quoi. Juste dire, Ya Allah, c'est trop dur, j'en peux plus. Ya Allah, vraiment, c'est vraiment difficile. Ma mère, elle me manque trop. En ce moment, je suis totalement perdue, je suis totalement dépassée, je sais pas quoi faire. Etc. Enfin, je sais pas, tu vas vraiment parler, raconter ton désarroi, etc. etc. Tu vois, bah, ça crée un lien fort. Et du coup, même dans ta peine, même dans ton épreuve, même dans ta douleur, etc. Je sais pas comment vous expliquer, mais je crois que c'est ça le innama al usri yusra, tu vois. Certes, dans la facilité, c'est dans la difficulté qu'il y a la facilité. Tu sens que dans ce moment difficile, il y a une rahma, il y a quelque chose parce que toi, tu as gardé ce lien fort avec Allah. Et donc, l'épreuve, elle est quand même plus douce en fait. Tu te sens pas seul, tu te sens pas démuni, tu te sens en sécurité, tu as confiance en Allah, tu sais qu'il est avec toi. Du coup, ça te donne une force à l'intérieur, un courage, la patience, etc. Mais quand tu te coupes d'Allah, tu te coupes de beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est nous, hein, qui nous coupons. C'est ça que je veux dire aussi. C'est que c'est nous qui nous coupons, en fait. Vraiment, l'invocation, c'est la meilleure des adorations, c'est l'invocation, retenez ça. Ce que je veux montrer aussi, c'est que dans ce lien de l'invocation, ce qu'il y a de beau, c'est ce côté secret, confidence, intimité. Vous voyez? Parce que finalement, toi, tu peux, par exemple, tu peux être dans le métro, tu peux être dans un lieu où les gens ils commettent des péchés, etc. Tu vois, toi, t'es là au milieu, t'es pas bien et tout. Tu peux être n'importe où. Tu peux être n'importe où. Tu peux toujours t'isoler dans ta tête et dans ton cœur pour parler à Allah. Pour faire les invocations, pour faire le déclic. Personne n'est capable d'entendre ce qui se passe dans ta tête et ce qu'il y a dans ton cœur en dehors d'Allah. Il n'y a que Allah qui entend ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc, tu peux toujours t'isoler à un moment donné en secret et parler à Allah. Et ça me rappelle trop. Je crois qu'on avait déjà parlé aussi sur le podcast. Excusez-moi, hein, je radote, on dirait une mamie des fois. voilà, j'ai ce souvenir quand j'étais en orthopsie à Marseille à l'époque. Et ce moment où. C'était vers la fin de l'année, ma troisième année, tout ça, au moment où je vais être diplômée, juste avant que je sois diplômée. Les filles de ma promo, tout ça, m'invitent à une soirée pizza chez une des filles. Et tu vois, j'étais là, j'étais posée avec elle. Et à un moment donné, où je me rappelle, où elles sont là, elles parlent de leur avenir, elles parlent de leur vie, elles parlent de. Enfin, je sais pas. Et moi, je me sentais à côté. Enfin, je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Il y avait une partie de moi qui disait, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là en fait? Et voilà, je me sentais. Je sais pas comment expliquer. Je me sentais un peu isolée et j'avais l'impression de pas du tout être à ma place, hein, ça c'est clair et net. Parce que l'ambiance, je sais pas comment expliquer, mais il y avait vraiment un truc. Mon cœur, il y avait un malaise. Voilà, mon cœur, mon âme, je sais pas. il y avait un malaise à l'intérieur de moi. Et je me suis isolée, et à l'intérieur de moi, donc moi physiquement j'étais avec elle en train de manger une pizza, mais au fond de moi, non. Et j'ai parlé à Allah. Et subhanallah, tu vois ce truc où vraiment tu fais doha pour elle, hein, tu dis Rabbi, guide-les et tout, parce que tu te dis les pauvres elles sont tellement loin, elles savent pas, etc. Tu vois. Et je parlais à Allah et tout, et juste après il y a mon téléphone qui était en mode sonnerie, et le Eden, on entend le Eden. Je crois que c'était le Maghrib ou le Isha, je sais plus. Et là, je me lève et tout, et je me rappelle, je vais voir l'autre, celle qui nous a accueillis. Et je lui dis, ouais, excuse-moi et tout, est-ce que je peux prier dans un endroit et tout? Il faut juste un endroit propre et c'est bon. Et en fait, je me rappelle de cette prière, parce qu'elle était particulière. Parce que c'était la prière, je sais pas comment expliquer ça, c'était une prière où vraiment je me sentais proche d'Allah, où j'étais dans la communication avec Allah, où je parlais à Allah, où je ressentais sa présence, où j'avais besoin de lui. Peut-être même le fait de les voir, elles, dans leur vie, etc., m'a encore plus fait prendre conscience de la chance que j'avais d'avoir Allah dans ma vie, du cadeau que c'est d'être musulmane, et cette volonté de trouver refuge auprès de lui parler, de lui raconter mon malaise et de... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était quelque chose de profond. D'ailleurs, ça m'avait trop touchée, parce que la fille, ma collègue, elle était trop émue. C'était un truc de fou, mais je vous jure, subhanallah. En fait, comment expliquer ça? Les cœurs communiquent. Je crois qu'on a le fétara, ouais, ça doit être la fétara, tu vois. Je pense qu'au fond de nous, donc la fétara, c'est la nature saine. Au fond de nous, on sait. Au fond de nous, on sait la vérité. Au fond de nous, on sait ce qui est juste. Au fond de nous, on a une part de nous qui recherchera toujours Allah, subhanahu wa ta'ala. Et puis après, quand tu grandis, l'éducation, l'environnement, la famille, les amis, etc., tout ça, ça t'éloigne ou ça te rapproche. Mais moi, je me rappelle de l'émotion de la fille. Je crois qu'elle avait les larmes aux yeux quand je lui avais demandé ça. Et elle m'avait même dit, tu peux prier pour moi. Ça m'avait choquée. J'étais choquée, subhanallah. C'est comme si elle avait senti, c'est comme si sa fétara, elle a entendu l'Eden, et c'est comme si sa fétara, sa nature saine à l'intérieur, elle a ressenti l'appel. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ne sont pas musulmans, ils écoutent le Coran, ils pleurent, ils disent, mais je ne sais pas pourquoi je pleure. C'est beau et tout ça, mais en fait, c'est parce que ça parle directement à leur nature saine, à la fétara. Bref, et donc ce moment-là, voilà, c'était un moment où j'étais avec les autres, mais je me suis mise dans une bulle et j'ai parlé à Allah. Et qu'est-ce que c'était fort. Et donc en fait, ce que je veux dire à travers cette histoire, cette anecdote, c'est que quel que soit l'endroit où tu es, quelles que soient les circonstances, quel que soit... Moi je pense par exemple aux convertis, qui parfois peuvent se retrouver dans des situations où, je sais pas moi, dîner de Noël, ils sont là, leurs parents, la famille ne sait peut-être même pas qu'ils sont musulmans, et surtout dans des situations... où ils se sentent hyper isolés, ils se sentent mal, etc., etc. Il y a ce malaise et tout et tout. Franchement, vraiment qu'elle leur facilite. Une grande pensée pour les convertis. D'ailleurs, il faudrait un jour que je fasse un épisode de podcast avec une convertie pour pouvoir parler de certains sujets, parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent et qui le sont, et que ça pourrait les aider. Enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est que quelles que soient les circonstances, tu peux toujours t'isoler et créer ce lien avec Allah en secret, dans l'intimité. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Tu peux être en prison, tu peux être n'importe où en fait. Tu peux toujours parler à Allah. Tu peux toujours invoquer Allah. Tu peux toujours... Il n'y a rien qui empêche ça. Et ça c'est vraiment beau et c'est vraiment puissant. Ah oui, d'ailleurs, ça me rappelle ce verset du Coran, donc Sourate 7, verset 55. « Implorez votre Seigneur en toute humilité » et discrétion, et discrètement, et dans une autre traduction, j'avais trouvé, et secrètement. Il y a ce côté à la fois humilité, et d'ailleurs dans l'invocation, il y a cette position d'humilité qui est, ya Allah, j'ai besoin de toi en fait. Moi, je suis en fait, on montre sa vulnérabilité, Allah, on montre, parce qu'Allah, il sait tout, tu vois. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le puissant. Et nous, on est totalement impuissants. Nous, bien sûr, on a notre libre arbitre, on agit, on fait de notre mieux, etc. Mais on est impuissant. Tout est entre les mains d'Allah. C'est Allah qui permet, c'est Allah qui facilite, c'est Allah qui donne. Le résultat est entre les mains d'Allah. Nous, on fait les causes à notre petite échelle, mais c'est Allah qui permet, c'est Allah qui donne. Et donc, finalement, le fait de le demander, ça nous met dans cette position d'humilité, de demande. On est dans le besoin. On a besoin d'Allah. Tu vois, on a besoin de notre créateur. C'est comme un bébé. Tu imagines le bébé, comment il a besoin de sa maman. Tu vois, c'est le bébé sans sa maman, il est perdu. Il a besoin de sa mère. Et donc nous aussi, on est dans cet état de demande devant Allah. Et secrètement, discrètement, il y a le côté dans l'invocation, dans le fait de parler à Allah, etc. C'est juste entre toi et Allah. Tu peux pas faire semblant de parler à Allah, tu vois. Tu peux faire semblant de prier, tu peux faire semblant, genre, tu donnes de l'argent et tout, mais en fait, c'est pour montrer que je sais pas quoi. Tu peux apprendre la religion pour montrer ta science et pouvoir, tu vois, te vanter ou passer pour quelqu'un de je sais pas quoi et tout. Mais finalement, quand il y a personne qui te voit et que tu parles à Allah, bah, tu parles à Allah, tu vois. Et donc, donc ça crée une relation, voilà, secrète et profonde et dans l'intimité. Subhanallah. Et qui est belle. Et autre chose. Vraiment, préparez-vous parce que c'est trop beau. Vraiment, c'est... Oh, j'aime trop ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah est gêné lorsque son serviteur tend ses mains vers lui pour lui demander de les retourner vides. Rapporté par At-Tirmidhi, numéro 3556. T'imagines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, il est gêné quand son serviteur, tu vois, quand tu es là, pendant la nuit, et tu tends tes mains vers Allah, et tu demandes, et tu l'invoques, Allah, il est gêné de les retourner vides. C'est pas un truc de fou, subhanallah, c'est pas un hadith de fou, c'est pas trop beau. Je trouve ça trop beau, j'aime trop ce hadith. Franchement, en fait, ça montre tellement la rahma d'Allah, son amour pour nous, le fait que finalement Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, il veut que notre bien, il veut pour nous le paradis, il veut nous rencontrer au plus haut degré du paradis. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime, il veut pour nous le meilleur. Et justement, en parlant de ça, de l'opinion d'Allah, parce que j'en avais parlé un petit peu au début, parfois on peut avoir une mauvaise opinion d'Allah, et ça c'est une... ça non, faut surtout pas laisser les waswas du shaitan ou nos pensées négatives à nous-mêmes, hein. Des fois on a des pensées négatives et tout, ou nous-mêmes on doute de tout ça, nous pousser en fait à avoir une mauvaise opinion d'Allah, parce que ça c'est non, ça c'est... Et justement on va en parler. D'abord, il faut savoir, parce que donc pour créer cette belle relation avec Allah, cette relation d'intimité, cette relation de profondeur, de secret, etc., c'est important de savoir tout d'abord qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate 50, verset 16, nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. En parlant de l'être humain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Ta veine jugulaire, c'est celle qui passe, c'est la veine qui passe au niveau du cou, il me semble. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est très 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 proche. Donc quand tu parles à Allah, quand tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala, aie conscience en fait qu'il t'entend, il te voit, il est proche de toi. Ressens ça. Tu vois? Ensuite, sache que... Oui, il y a un autre verset aussi là-dessus, donc sur la 2, verset 186. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Allah, il répond à ton appel, tu vois. Allah, il est tout proche, tu vois. Donc, ressens ça. Je trouve ça tellement réconfortant de se dire ça. Je trouve ça tellement réconfortant quand tu vis des moments difficiles parfois... de sentir que finalement, ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, tu peux l'invoquer à tout moment. Il est tout proche, subhanallah. Donc, je voulais citer... Alors, attendez, hop, j'ai mes petites notes là sur mon téléphone. Oui, donc, ce que je voulais citer, c'est... Allah subhanahu wa ta'ala t'aime plus que ta propre maman. Tu vois, là, on va revenir sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te porte. Et je vais citer un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit auprès de prisonniers. Soudain, une prisonnière se précipite en direction d'un enfant qui se trouvait parmi les prisonniers. Elle le serra contre sa poitrine et l'allaita. À cet instant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda « Pensez-vous que cette femme puisse jeter son enfant au feu ?» Nous dîmes « Non, par Allah !» Il dit « Allah est assurément plus miséricordieux à l'égard de ses serviteurs que ne l'est cette femme envers son enfant. » Sahih Muslim numéro 7859. C'est-à-dire que là, il faut imaginer une mère qui cherche son bébé, elle cherche son enfant, elle court, elle est là, elle cherche... Imaginez, enfin voilà, c'est... Pour celles qui sont maman et qui m'écoutent, vous savez ce que c'est. T'as perdu ton enfant. Tu cherches de partout ton bébé. Et d'un coup, tu le trouves. En plus, tu es à l'aide. Hein, donc, ça veut dire que, voilà, tu sais que ton bébé, il a faim. Il a besoin de toi. Il est démuni et tout. Et donc, tu cours partout, partout. Et tu le prends dans tes bras. Et ça y est, tu l'as trouvé. Tu le prends, tu le serres dans tes bras. Et tu vois, tu le câlines. Et tu lui donnes du lait. Tu l'allaites. Tu l'embrasses. Tu imagines cet élan d'amour que tu as pour ton enfant. Eh bien, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce que cette femme, elle peut jeter son enfant au feu? Mais c'est impossible. Les compagnons, ils ont dit, mais non, c'est... Non, impossible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé cet exemple pour dire, Allah, il y a plus de rahma, il y a plus d'amour pour ses serviteurs que cette femme envers son enfant. Tu vois? Je veux dire, on le sait, l'amour d'une mère, l'amour d'une mère, je pense que c'est un des amours qui est le plus puissant, tu vois? L'amour d'une mère pour son bébé, elle peut déplacer des montagnes pour son bébé, elle peut se sacrifier pour son bébé. Je pense que c'est l'amour sur cette terre. Je pense que c'est un des amours les plus. Je pense que c'est l'amour le plus puissant, l'amour d'une maman pour son bébé. Eh bien, le prophète il a pris cet exemple pour dire, eh bien, Allah il a plus d'amour, il a plus de rahma, tu vois, pour son serviteur que cette mère pour le bébé. Et ça, c'est puissant, c'est vraiment puissant. C'est pourtant de méditer sur les choses. De pas juste écouter le hadith en disant « Ah ok, ok », mais vraiment de dire « Ah ouais, tu vois, regarde ma mère comment elle m'aime, regarde moi comment j'aime mon bébé, tu vois, surtout les bébés, on va pas se mentir. Il y a un bébé comme ça qui a l'aide et tout, oh mon Dieu, c'est trop craquant, c'est trop, voilà, tu vois. » Alors imagine, après quand ils grandissent et qu'ils des fois ils t'embêtent et tout, là ils te prennent la tête et qu'ils font des grosses bêtises, voilà, non je rigole, tu les aimes toujours, hein. Mais bon, les mamans vous m'avez comprise. Donc, rappelle-toi, quand tu parles à Allah, rappelle-toi de l'amour et de la rahma qu'il a pour toi, tu vois. Donc, adresse-toi à lui en te disant qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il m'aime plus que ma mère ne m'aime. Quand tu parles à Allah, aie ça en tête, tu vois, c'est pour ça que j'ai choisi ce hadith-là. Autre chose, un très très beau hadith que j'aime beaucoup, j'en ai parlé un peu avant, c'est un hadith Qudsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. » C'est pour ça que je vous dis, c'est très important d'avoir une bonne opinion d'Allah, de se rappeler de l'amour d'Allah qu'il a pour toi et de toujours juger ce qui t'arrive dans ta vie avec le regard de Allah même et veut le bien pour moi. Et quand on dit le bien c'est l'akhirah, c'est le paradis, c'est se rencontrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ok ? Tu pourrais te dire oui mais... Je dis ça parce que parfois dans l'épreuve, on peut avoir le sentiment de « mais pourquoi je suis éprouvée ? Mais c'est trop dur ?» Tu vois, des waswas comme ça du shaitan, parfois en mode « mais Allah il me punit, Allah il m'aime pas, Allah... etc. » Non, 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 non. Rappelle-toi de ça, rappelle-toi de ce hadith quand Allah dit « je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. » Et rappelle-toi qu'Allah il t'aime plus que ta propre mère. Et donc... Quand tu interprètes l'épreuve, dis-toi que Allah subhanahu wa ta'ala, il cherche, il y a une sagesse, il y a une hikma derrière. Il y a un bienfait pour moi. Et ça, c'est quelque chose dont tu dois être absolument sûre et certaine. Il y a un bienfait qui se cache derrière. Il y a plein de sagesse. Et je patiente et je serai récompensée pour ma patience. Si c'est une épreuve douloureuse, etc., je me rappelle que juste une épine, Allah subhanahu wa ta'ala, juste tu te fais piquer par une épine, Allah te pardonne tes péchés. Alors imagine quand tu es éprouvé, tu vois. Il te purifie tes péchés, il t'élève en degré. Quand tu patientes, t'es récompensé pour ta patience. Peut-être que cette épreuve va te rapprocher d'Allah, va te pousser à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à te tourner vers lui. Peut-être que c'est un moyen pour que tu te rapproches d'Allah justement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu viennes vers lui. Il veut que tu te tournes vers lui. Il veut que tu te rappelles de lui parce que peut-être que tu t'es éloigné, etc., etc. Mais il y a toujours un bienfait. On part toujours de ce postulat-là. Allah subhanahu wa ta'ala m'aime et me veut du bien. Je continue le hadith. Et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. Donc c'est ce qu'on avait dit, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi-même. Ça, c'est trop beau. À chaque fois que tu invoques Allah en secret, en toi-même, tu vois, dans l'intimité, dans le secret, comme si, voilà, t'es là, tu te confies auprès d'Allah. Personne ne sait, tu vois. Eh bien, Allah, ce matin-là, il dit, je l'invoque en moi-même, tu vois. Et c'est, mais quelle relation, quelle belle relation, ensuite, vous avez, pleine d'intimité, de secret, de confidence. En général, les relations qu'on voit autour de nous, plus dans le secret il se passe des choses, tu vois, bah plus, tu vois, je veux dire, par exemple, je sais pas, supposons on voit un couple, t'as deux couples côte à côte, il y en a un qui, quand ils se retrouvent seuls, bah voilà, ils parlent, ils se confient, ils se racontent leurs secrets, ils se racontent, tu vois, ils se soutiennent, ils communiquent beaucoup, ils s'apportent le réconfort, ils s'apportent ce dont chacun a besoin via l'écoute, la parole, etc. Bah après, quand tu les vois, je sais pas, ils sont devant toi, même s'ils font pas grand-chose, tu sens qu'il y a un truc entre eux. Tu sens qu'il y a une complicité, il y a quelque chose, tu sens qu'il y a une profondeur dans leur lien. Alors que quand tu vois un autre couple qui, quand ils sont ensemble, ils sont chacun sur son téléphone, ils se parlent pas, ils se disent rien, ils communiquent pas, bah en fait, quand ils sont face à toi, même s'ils font pas grand-chose, bah tu sens que, voilà, tu vois, c'est pas... Tu sens que leur lien n'est pas fort. Tu vois, il manque quelque chose. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a des gens, ce pendant-là, tu les rencontres. Et même si ils font pas grand-chose, mais tu sens qu'ils ont un lien avec Allah. Donc, moi, je me rappelle aussi d'une amie Oumi. Je vous ai aussi beaucoup de fois parlé d'elle dans le podcast, parce qu'elle a été très, très, très éprouvée. Mais moi, je me rappelle quand j'étais toute petite, avant qu'elle soit éprouvée et tout, moi, je me rappelle, j'étais toute petite, je la voyais. Et elle m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marquée. Vraiment qu'Allah la récompense grandement pour ses épreuves, pour sa patience dans les épreuves et vraiment pour tout ce qu'elle fait. Et moi, là, ce qui m'avait marquée, c'est que je la sentais proche d'Allah. Voilà. Parce que je la voyais tout le temps dans le dhikr, très discrète, très... En fait, je sentais vraiment que c'était la femme qui... elle a une relation, mais de ouf avec Allah en secret. Tu vois? C'est-à-dire que dans les faits, elle est comme les autres femmes, hein. Elle fait la prière, alhamdoulilah, elle fait le jeûne, elle fait le bien, mais comme d'autres personnes peuvent le faire. Vous savez, voilà, comme d'autres elles peuvent le faire, comme moi je peux le faire, enfin, voilà. Et encore, mais par contre, tu sens qu'en secret, quand personne ne la voit, mais cette femme, elle fait des trucs de fou. Et sa fille, Rabbi Rahman, elle me disait, ma mère, tous les jours, à 3 h du matin, elle se lève pendant la nuit, enfin toutes les nuits, pardon, à 3 h du matin, elle se lève et je l'entends réciter le Coran, parce qu'elle fait les prières surérogatoires au milieu de la nuit, et elle lit le Coran. Et c'est sa fille qui nous dit, Rabbi Rahma. Et d'ailleurs, elle m'avait raconté une anecdote incroyable, je me rappelle, ça m'avait choquée. Elle m'avait dit qu'il y a une nuit, elle ne s'est pas levée, son réveil n'a pas sonné, etc. Peut-être qu'elle était fatiguée, le réveil n'a pas sonné. Et ben, elle m'a dit quoi? Truc de fou, subhanallah. 3 h du matin, son réveil sonne. C'était un faux numéro. Pas son réveil sonne, pardon. Quelqu'un l'appelle. D'accord? Quelqu'un se trompe de numéro ou je sais pas quoi, elle reçoit un appel à 3 h du mat qui la réveille. Elle reçoit un appel à 3 h du mat, mais qui reçoit un appel à 3 h du mat? Et donc, elle, son réveil n'a pas sonné. Allah subhanahu wa ta'ala, elle a envoyé une personne. Allah subhanahu wa ta'ala, elle a envoyé une personne pour qu'elle se lève et pour qu'elle prie, pour qu'elle lise le Coran, etc. Franchement, je suis émue parce que je me dis, mais. À quel point cette personne aime Allah et à quel point Allah aime cette personne. Vous voyez? À quel point Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime. Allah subhanahu wa ta'ala, il y avait ce rendez-vous tous les soirs entre eux. Tous les soirs, il y avait ce rendez-vous secret entre eux. Dans l'intimité de la nuit, au milieu de la nuit, quand tout le monde dort, moi la première. Hein, et elle est là, elle se lève pour Allah et elle parle à Allah. Elle est là, elle se confie à lui, elle lui raconte. T'imagines la relation qu'elle a? C'est ouf, hein? Franchement, je l'envie tellement. Et cette femme, elle a été durement, durement, durement éprouvée. C'est une des personnes que je connais qui est le plus éprouvée parce qu'elle a perdu beaucoup de membres de sa famille en peu de temps. Bah, elle a perdu sa fille, justement, comme voilà, j'en ai parlé plusieurs fois et tout. Voilà, elle a perdu sa fille qui était une amie proche que je considérais, enfin vraiment que j'aimais énormément et qui était une personne très inspirante d'ailleurs. Malheureusement, elle a perdu d'autres, enfin, elle a perdu son fils, etc. Enfin, vraiment, voilà. Et profondément éprouvée. Et pourtant, elle, même après ces épreuves, quand je l'ai visitée, qu'est-ce qu'elle me disait? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. tu vois. Elle avait ce lien avec Allah et elle a toujours ce lien avec Allah et j'espère que ce lien il grandira encore plus et qu'elle retrouvera toute sa famille au Firdaus al-A'la parce que vraiment elle le mérite. C'est une personne qui m'inspire énormément. Donc voilà, quand tu invoques Allah en secret, mais au secret au milieu de la nuit, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala t'invoque, tu vois, en lui-même. Et quand tu invoques Allah devant une assemblée, quand tu parles d'Allah devant les autres, je reprends le hadith. Et s'il m'invoque dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Tu vois, quand tu parles d'Allah devant les autres, Allah il parle de toi devant une assemblée meilleure. C'est cool. Quelle est l'assemblée d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais c'est les anges. Allah il parle de toi aux anges. Tu vois? C'est pour ça que je me dis, ma mère, Rabbi Rahma, vu comment elle parlait tout le temps d'Allah, je me dis, mais ça devait être une célébrité chez les anges. Ils devaient tous la connaître. Subhanallah. Et s'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui avec empressement. Sahih Bukhari numéro 7405. Ce hadith, il est beau. Franchement, ce hadith, ça, il y a trop d'amour. Il y a trop d'amour dans ce hadith. Il y a trop d'amour. Il est trop, franchement, qu'Allah nous permette. Qu'Allah nous permette de l'envoyer en secret. Qu'Allah nous permette de parler de lui devant des assemblées. Qu'Allah nous permette de nous rapprocher de lui. En fait, j'ai l'impression que vraiment, Allah, il nous demande le minimum, tu vois. Et en plus, chaque fois qu'on fait ce petit minimum, Allah, ce matin, il nous donne encore plus, il se rapproche encore plus, il fait plus, tu vois. Finalement, c'est souvent ça. C'est le truc, c'est, il faut juste que ça vienne de nous, tu vois. Il faut juste faire ce pas vers Allah. L'invoquer, se lever, prier, tu vois, le faire avec le cœur, le faire avec l'envie, le faire avec l'amour. C'est... Subhanallah, c'est beau. Est-ce qu'il y a un autre... Ah oui. Est-ce que tu savais que celui qui a hâte de rencontrer Allah, Allah a hâte de le rencontrer? Tu vois? Et parce qu'il y a un hadith là-dessus, hein. Je vais vous citer le hadith et ensuite je vais vous dire un peu ce que je pense. D'après Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Et celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. » J'ai dit au message d'Allah, est-ce qu'il s'agit du fait de détester la mort? C'est une question qui est importante qu'elle a posée parce que, voilà, on a peur de la mort, la mort ça nous fait peur, la mort, comme je vous ai dit au début du podcast, vous m'avez entendu, hein, j'ai dit bon ben, je sais pas, j'enregistre ce podcast avec un peu d'avance, j'espère que je serai toujours en vie le jour où il sortira. Il y a cette idée vraiment de, voilà, t'as peur de la mort, j'ai pas envie de mourir, je me sens pas prête, j'ai envie d'œuvrer encore, surtout j'espère que je serai encore là pour le prochain ramadan pour faire un maximum et tout. Donc Aïcha elle dit au message d'Allah, qu'en est-il du fait de détester la mort? Et elle rajoute, car chacun de nous déteste la mort. on a tout ça en commun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce n'est pas cela. Ouf. C'est plutôt lorsqu'on annonce aux croyants la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah, rahma d'Allah, de sa satisfaction, de son rida et de son paradis, de sa janna, alors il aime la rencontre d'Allah. C'est-à-dire que, voilà, quand on te dit, parce qu'en fait t'as œuvré, t'as fait le bien, etc., et du coup, on te dit, voilà, la bonne nouvelle de l'Arhamad Allah, du paradis et tout. Du coup, t'as hâte, t'es pressé. Bon, certes, la mort, t'as pas envie, ça fait peur et tout, l'agonie et tout ça. Mais tu as hâte de rencontrer Allah. Tu vois, quand tu penses en fait à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans ces conditions-là, bien évidemment que t'as hâte de le rencontrer. Et certes, le mécréant, lorsqu'on lui annonce la nouvelle du châtiment d'Allah, de sa colère, alors il déteste la rencontre d'Allah et Allah déteste sa rencontre. Ah oui, non, j'ai oublié de finir la première partie du hadith. Donc, quand on te parle de la rahma, du paradis, etc., tu aimes la rencontre d'Allah et Allah, il aime ta rencontre. Et donc, ensuite, dans les cas du mécréant, quand on lui annonce la nouvelle du châtiment d'Allah, de sa colère, il déteste la rencontre d'Allah et Allah déteste sa rencontre. Rapporté par Bukhari, sahih numéro 6507, et Muslim, sahih numéro 2684. Donc ça, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que plus tu vas parler à Allah, plus tu vas lui demander le paradis, plus tu vas lui demander qu'il te pardonne tes péchés, plus tu vas chercher donc à te rapprocher d'Allah, plus tu considères Allah comme un confident, plus tu vas lui parler en fait, plus tu auras envie de le rencontrer. C'est, je sais pas, c'est finalement c'est dans la continuité. Si tu aimes Allah si tu invoques Allah, si tu parles à Allah, si tu racontes tout à Allah, si tu te sens proche d'Allah, si tu ressens la rahma d'Allah, etc. ici-bas, si tu as déjà une relation forte avec Allah ici-bas, et bien sûr cette relation forte, elle va te pousser à faire le bien, elle va te pousser, parce que quand tu aimes quelqu'un, il suffit pas de, on est d'accord, il suffit pas de dire j'aime, supposons que tu es marié, tu aimes ton mari, on est d'accord qu'il suffit pas de dire j'aime mon mari, oui je l'aime dans mon cœur, et après tes actes sont détestables, c'est-à-dire oui ok je l'aime, mais voilà, j'écoute pas ce qu'il me dit, je le respecte pas, je fais les trucs qu'il déteste, je les fais, je le fais, je le fais et je m'en fous, ce qu'il a envie que je fasse, je le fais aucun effort, je fais rien, on est d'accord que ça marche pas, on peut pas dire j'aime quelqu'un et à côté je ne montre pas mon amour par des actes, ou voire pire, mes actes sont à l'opposé. Ça ne marche pas, on est d'accord. Si tu aimes quelqu'un, tu vas pas le tromper, tu vas pas, tu vois, tu vas lui préparer à manger avec amour, tu vas te comporter bien avec lui, tu vas être loyal, tu vas le respecter, etc., etc. Tu vas le prouver par des actes, tu vas lui faire des cadeaux, tu vas ce qu'il aime de toi, tu vas le faire, et ce qu'il aime pas, tu vas l'éviter. Bon, c'est logique. Et en même temps, voilà. Donc, ce qu'il faut se dire également, c'est j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet amour va être l'élan en fait pour me donner encore plus envie d'œuvrer en bien, de prier, de faire des sadaqas, de jeûner, d'avoir un bon comportement envers les autres, d'aimer les autres pour Allah, de... Tu vois, je vais avoir envie d'apprendre le Coran, etc. Je vais avoir envie de faire d'œuvrer pour lui. Et en faisant ça, bah, j'aurai... En fait, tu crées un cercle super vertueux où tu œuvres comme ça et du coup, tu as encore plus envie. T'as encore plus envie du coup d'aimer Allah, etc. Enfin, tu aimes encore plus Allah, tu as encore plus envie d'œuvrer. Quand tu œuvres, etc., tu ressens la sakina d'Allah, etc. Donc, ça augmente encore plus ton amour pour lui. Voilà, tu es dans un cercle vertueux. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, forcément, logiquement, quand tu penses à la mort, certes, la mort ça fait peur, mais après, tu penses à la rencontre avec Allah et t'as envie de rencontrer Allah. Parce que tu l'aimes, donc t'as juste une envie, c'est de le rencontrer en vrai, de le voir, d'être là sous son trône, de voir son trône, de voir Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, en fait, on dit ça comme ça, mais en vrai, c'est un truc de malade. C'est le but d'une vie, quoi. C'est mourir et rencontrer son créateur. Avoir l'honneur de le voir, parce que je le rappelle, hein, c'est les croyants qui vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Les mécréants, ils n'auront pas l'occasion de voir Allah. C'est le cadeau ultime. Rencontrer Allah, c'est le cadeau ultime. C'est le. C'est. Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, une fois que tu es au paradis et que ça y est, tu vois, tu es sauvé et que tu obtiens tout ce que ton âme désire au paradis, et que tu as des cadeaux que tu t'aurais jamais imaginé, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des choses au paradis pour le croyant que nul œil n'a jamais vu, nul oreille n'a entendu et nul cœur humain n'a imaginé. On n'est même pas capable d'imaginer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé pour ses croyants. Et en fait, et au-delà de ça, le cadeau ultime, le bienfait ultime qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous réserve, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, Ya Rabbi, ne nous prive pas de ça, Ya Allah, ne nous prive pas du paradis, Ya Allah, ne nous prive pas de ta rencontre, Ya Allah. Ça, c'est sa rencontre, Ya Allah. C'est ça le cadeau ultime. Vraiment, qu'Allah nous permette de le rencontrer et de le voir. Et donc voilà, parle avec Allah, subhanahu wa ta'ala, crée ce lien fort avec Allah, subhanahu wa ta'ala, pour nourrir ce cercle vertueux. Et pour avoir hâte de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et pour le rencontrer, bénillah. De quoi veux-je parler encore? Toujours dans cette idée, donc avoir une bonne opinion d'Allah, on se rappelle, hein, je suis selon ce que mon serviteur pense de moi. On a vu le hadith un peu plus haut. Ne surtout pas, quand les épreuves viennent, les difficultés, les moments difficiles, etc., ne jamais laisser les pensées du type Allah me punit, Allah il veut pas que je fasse le bien, Allah il veut pas que je me rapproche de lui, Allah il veut pas que je fasse ça et ça et ça. Bon, voilà, j'ai reçu des messages en DM, j'étais là en mode ah non, faut pas penser ça, surtout pas. Au contraire, c'est totalement faux. Et donc, il faut toujours donc cultiver la belle opinion d'Allah, une bonne opinion d'Allah. Comment tu fais ça? Quand tu as des waswas, quand tu as des pensées négatives, ce que je t'invite à faire, c'est de laisser filer les pensées, les laisser partir. Ne leur donne pas d'importance, ne leur donne pas de valeur à ces pensées-là. Laisse-les partir, tu vois. Imagine que ta pensée, c'est un oiseau noir, tu vois, qui passe au-dessus de ta tête. C'est pas grave si l'oiseau il est passé au-dessus de ta tête. Hein. Faut pas dramatiser hein, quand on a des pensées négatives. On a tous des pensées des fois de doute, des pensées des fois ce n'est pas grave. Tant que tu la laisses couler, tu la laisses partir et tu lui donnes pas d'importance. Tu donnes pas de valeur à cette pensée-là. Parfois, on peut avoir une pensée négative et se dire oh, comment j'ai osé penser ça? Mais quelle horreur de penser ça! Mais c'est grave de penser ça! Et en fait, on en fait, on se torture l'esprit et finalement, on lui donne beaucoup beaucoup d'importance à cette pensée et du coup, enfin, on a l'impression d'être la pire des personnes. Ça nous arrive à tous hein, d'avoir des pensées, voilà, SOS, des choses comme ça qu'on n'a pas envie. Ok, c'est pas grave, là, il me punit, là, ou je mérite pas l'amour d'Allah, ou des choses comme ça. Ok, tu le laisses filer, tu le laisses partir, ok? Et tu ne lui donnes pas d'importance plus que ça. Bon, ok? Et également, reformule. Si tu as des pensées comme ça, tu dis non, Allah, il m'aime, Allah, il veut mon bien, Allah, il veut pour moi le paradis. Tu vois, Allah, il m'aime plus que ma maman. Donc non, tu vois. Donc reformule, tac, 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 tu te reconditionnes, tu vois. Ensuite, ben, t'hésites pas à dire A'oudou billahi minash-shaytanir rajim. Quand tu as des pensées négatives comme ça, graves et tout, tu dis A'oudou billahi minash-shaytanir rajim. Ça se trouve, c'est le waswas du shaytan et tout, donc hop, je le laisse pas lui aussi prendre trop de place dans ma tête. Et puis aussi, si tu sens que tu as une mauvaise opinion d'Allah souvent, tu as des mauvaises pensées comme ça arrive souvent, apprends à connaître Allah. Apprends à connaître Allah à travers ses noms, à travers ses paroles, le Coran, à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths qudsi, etc. Comme les hadiths qu'on a cités, tu peux aussi réécouter ce podcast. Parce que justement, ce podcast, il est là pour te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, comment il est, comment il nous aime, tu vois. Voilà, plus tu le connais, plus tu vas t'émerveiller de la rahma d'Allah, de sa sagesse, de sa bonté, de sa générosité. Et plus ton cœur va se briser d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc apprends à connaître Allah, écoute les prêches, écoute les rappels, lis des livres, tu vois. Nourris ton esprit de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça va aussi nourrir ton amour pour Allah et ça va nourrir la bonne opinion d'Allah. Plus tu vas apprendre à le connaître, plus tu vas t'émerveiller, plus tu vas l'aimer. Donc prends le temps de le connaître. Voilà, et n'hésite pas, donc je l'avais dit, ouais, à reformuler Allah il m'aime, Allah il me veut du bien, Allah il veut me purifier de mes péchés, Allah il veut pour moi le paradis, etc., etc., pour te rappeler. Voilà, je sais pas combien de temps ça fait que je parle, je crois que ça fait un petit moment quand même. Bon, peut-être que cet épisode sera un peu plus long, mais c'est pas grave. Ensuite, c'est quand le meilleur moment pour parler à Allah? C'est quand le meilleur moment pour parler à Allah? Bah, la bonne nouvelle, c'est que chaque moment est le meilleur moment. Bien sûr, il y a des moments, on va voir juste après, il y a des moments qui vont être un peu meilleurs que d'autres. Mais en vrai, chaque moment est parfait pour parler à Allah. Chaque fois que tu penses à Allah, que tu ressens le besoin, que tu ressens l'envie, vas-y, parle à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est beau en fait. C'est qu'il n'y a pas de moment précis. Or, quand je pense que. Il me semble que dans certaines religions, il y a un intermédiaire. Par exemple, quand tu commets un péché, tu peux pas. Dans certaines religions, je pense, je crois que c'est. Enfin voilà, les catholiques, ils peuvent pas juste demander pardon à Allah. Ils doivent aller confier leur péché à un tiers. Voilà, le curé ou je sais pas quoi, et dire, voilà, j'ai fauté, j'ai fait ça. T'imagines si t'avais besoin d'un intermédiaire? Pire, t'imagines si tu devais raconter tes péchés à quelqu'un? Oh! Mais c'est horrible. C'est pour ça que je me dis, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande pas ça. Tu te tournes directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure de la relation que tu as avec Allah, elle est très particulière, elle est unique. Pourquoi? Parce que personne ne connaît ton vrai visage en dehors d'Allah. Personne ne connaît toutes les facettes de toi en dehors d'Allah. On a tous des facettes un peu plus sombres, un peu plus, tu vois, un peu, je sais pas, hein, des trucs en fait de nous qui sont moins flatteuses. Tu vois, des parties de nous qui sont pas aussi lumineuses qu'on voudrait montrer aux autres qu'on voudrait qu'elles soient. Et Allah, il sait ça. Il connaît. Il connaît, il sait comment tu es. Il connaît toutes les facettes de toi. Il connaît tes pensées les plus profondes, les plus intimes, tes doutes, tes peurs, tes péchés, tes défauts. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout de toi. Tu vois. Tu peux pas te cacher de lui. Tu peux pas montrer une fausse image. Tu peux pas faire semblant. Et c'est pour ça que c'est une relation aussi où tu es dans l'humilité, dans la vulnérabilité, où tu dis Allah, ouais, c'est vrai, j'ai fait ce péché, j'ai fait ça, je me suis éloignée, pardonne-moi, j'ai ce défaut et tout, aide-moi et tout. Donc ça crée une relation forte, une relation où tu es dans le besoin. Et n'oublie pas que quand Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un lève les mains vers lui et qu'il l'invoque, alors il est gêné de laisser repartir les mains vides. Tu vois? Donc en fait, ce qui est beau, c'est que c'est la personne qui. Pardon, astaghfirullah. Allah subhanahu wa ta'ala, je veux dire, tu peux toujours te tourner vers lui quel que soit le péché que tu as commis, quelle que soit la chose que tu as fait, il va jamais te renier. Si tu fais du mal, si tu racontais tes pires péchés ou tes pires défauts ou je ne sais quoi à quelqu'un, à un être humain, tu vois, il pourrait être, tu vois, au bout d'un moment, il te méprise ou il te dit, franchement, là, tu m'as déçu. Ah, tu vois, ou bien, tu vois, ne... Mais Allah subhanahu wa ta'ala, jamais. Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, il est content quand le serviteur il retourne vers lui et qu'il l'implore et qu'il lui demande pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un fait le repentir, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il pardonne tous les péchés. Tu vois, et donc, ça crée en fait une relation où tu peux être toi. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux être toi. Tu peux être pleinement toi-même. Je veux dire, tu peux pas être pleinement toi-même avec ton mari, avec même ton mari, tu vois, tu l'aimes, il t'aime, tout ça. Tu peux pas montrer le pire de toi, le pire de machin, tu vois. Tu veux toujours, je sais pas qu'il ait une bonne opinion de toi, etc. Tu veux pas qu'il ait une mauvaise image de toi. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Tu vois, tu peux rien lui cacher. Et finalement, c'est réconfortant de savoir que il sait tout. T'as pas besoin de faire semblant, t'as pas besoin de, et tu peux juste déposer. Tu vois, ta vulnérabilité devant Allah. Déposer tes péchés devant Allah. Déposer ta gêne et ta culpabilité et tes hontes devant Allah en disant, Ya Allah, moi je suis faible, je suis comme ça, j'ai fait ça, Ya Allah, pardonne-moi, aide-moi à m'améliorer, aide-moi à devenir une meilleure personne, etc. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il est proche, il t'entend, il est plein de rahma et il t'aime plus que ta propre mère. C'est pas trop beau, n'empêche, comme relation, c'est pas trop rassurant, réconfortant. Il n'y a qu'avec Allah que tu sens cette sécurité-là. Tu vois, il t'accepte pleinement comme tu es. Tu vois, tu peux venir avec tes péchés, tu peux venir avec tes défauts, tu peux venir, mais juste tu as la volonté de te rapprocher d'Allah. Juste avec la volonté sincère de demander pardon à Allah, juste avec la volonté sincère de t'améliorer, juste avec la volonté sincère de la volonté, tu vois, tu veux le paradis, tu veux le rencontrer, tu veux qu'il t'aime, tu veux le satisfaire. Ben, tu peux venir avec tes péchés, tes défauts, tu vois. Alors que tu peux pas venir avec tes péchés, tes défauts, etc. devant les autres personnes. Ils l'accepteront pas. Personne ne peut accepter, tu vois, tous tes défauts, tous tes trucs et tout. Ça va lasser les gens, ça va les saouler, ça va, tu vois. Bien sûr, alhamdoulilah, quand même, on a des proches et tout qui nous aiment, qui essaient de nous aimer comme on est, tout ça. Mais après, faut pas se leurrer. Tu vois, le pire de tes défauts et tout, les gens, ils veulent que tu changes. Ce qui est normal. Alors, ce matin-là aussi, ils veulent que tu changes, je dis pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux raconter tout. Tu peux dire tout. Tu peux te confier dans tout. Chose que tu peux pas faire avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux vraiment venir avec le pire de toi en disant, regarde là, voilà le pire. Je te montre le pire. J'ai honte. Je me sens coupable. Mais voilà le pire de moi. Regarde là, aide-moi à changer. Regarde là, pardonne-moi. Tu vois? Et ça, c'est une relation unique. Subhanallah. Donc, par rapport aux moments spéciaux où tu peux... parler à Allah, il y a le moment où, je sais pas si tu sais, mais le moment où tu es le plus proche d'Allah, c'est lorsque tu es en sujoud. C'est pendant la prosternation. Pour ça, je vais te citer un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le moment où le serviteur est le plus proche de son seigneur, c'est lorsqu'il se trouve en prosternation. Multipliez donc les invocations à ce moment-là. Selon Sahih Muslim, numéro 482. Donc, quand tu es en sujoud, dis-toi à chaque fois que tu pries, Ya Allah, là c'est le moment où je suis le plus proche d'Allah. Donc prends le temps, invoque Allah, demande-lui, raconte-lui, confie-toi à lui, parle-lui. Tu vois, c'est le moment où ouvre ton cœur à Allah, parce que c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah. N'hésite pas, tu vois. Également, autre moment particulier, c'est le dernier tiers de la nuit. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel de l'ici-bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit, qui m'invoque que je l'exauce? Qui me demande que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Rapporté par Al-Bukhari, Sahih numéro 1145, et Muslim, Sahih numéro 758. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au dernier tiers et il te demande, c'est qui m'invoque pour que je l'exauce? C'est qui me demande pour que je lui donne? C'est qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Tu vois, c'est un moment privilégié pour parler à Allah, un moment privilégié pour l'invoquer, un moment privilégié pour te tourner vers lui. Donc il y a des moments privilégiés comme ça. Également, alors j'ai pas cité le hadith, mais également une personne qui subit une injustice, un dolm, madlum, tu vois, son invocation, bénilla, elle est exaucée. Donc il y a des moments comme ça. Maintenant on va partir sur autre chose, c'est comme je disais au début, tous les moments sont bons. Pourquoi? Allah SWT, il nous dit, dans sourate 40, verset 60, dans sourate Ghafir, « Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. » Il n'a pas mis des conditions, « invoquez-moi de telle heure à telle heure, tel jour, voilà, une fois par mois, l'invocation est exaucée. » Non, il a dit, « invoquez-moi et je vous exaucerai. » Tu vois? Donc finalement, c'est pas... chaque moment est le bon. Chaque moment où ton cœur ressent le besoin, c'est le bon. Tu vois, donc invoque Allah. Ensuite, les autres moments, ça peut être... souvent, on pense à Allah quand on est éprouvé. Et c'est bien, déjà, je veux dire. C'est voilà, moi, comme je vous l'ai dit au début, quand j'étais éprouvée avec la mort de ma mère et tout, j'ai trouvé le réconfort auprès d'Allah. Et uniquement auprès d'Allah. Donc c'est bien quand tu es en souffrance, quand tu es dans la douleur, etc., quand tu vis des épreuves, des moments difficiles, angoissants, stressants, etc., cherche ton réconfort auprès de ton Créateur. Cherche l'apaisement auprès d'Allah. Cherche la sécurité auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu vois, ne reste pas seul avec ta peine, avec ta douleur, avec ton stress et tout, mais tourne-toi vers Allah et prends le réconfort d'Allah. Ressens la rahma d'Allah, ressens la proximité d'Allah et réconforte-toi de ça, tu vois. Trouve ton réconfort auprès d'Allah. Mais aussi dans la joie, on n'y pense pas assez. Quand tu as une bonne nouvelle, quand tu as un bienfait, quand tu as un cadeau, quand tu as une réussite, ou quand il y a des petits moments comme ça, simples, mais simples, tu peux te réveiller le matin, voilà, ce jeu, avec le bonheur d'être en vie, d'avoir ta famille près de toi, d'être au chaud, etc. Mais tu vois, ça connecte-toi à Allah à ce moment-là. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Tu vois, remercie Allah, loue Allah subhanahu wa ta'ala pour ya rabbi lak alhamd, ya Allah lak alhamd lak ashukr. Tu vois, pour ce bienfait là, la ni'mat l'islam déjà, remercie Allah du fait d'être musulmane, déjà c'est énorme. Et n'hésite pas à faire sujoud shukr. Sujoud shukr, c'est deux rak'at de la reconnaissance. Quand on t'annonce une bonne nouvelle comme ça, surprenante, tu t'y attendais pas et tout, enfin voilà, on t'annonce une bonne nouvelle, t'es trop heureuse, t'es trop contente, hop, tout de suite, de la ya Allah, merci, ya Rabbi, alhamdoulilah, shukr. Je vous cite un hadith là-dessus. Abu Bakr relate, lorsqu'il arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose de réjouissant ou qu'on lui annonçait une bonne nouvelle, il tombait prosterné par reconnaissance envers Allah. Rapporté par Ibn Majah. C'est-à-dire, il se prosternait pour reconnaissance, pour remercier Allah, par joie. Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, pardon. Ensuite, quand tu vois quelque chose qui t'émerveille, par exemple le ciel, moi j'aime trop, franchement, je trouve que le ciel c'est waouh, c'est tellement beau, c'est tellement. J'aime trop, moi j'aime trop le ciel. J'aime trop quand c'est des nuages, j'aime trop. Du coup, même quand il pleut et tout, parce que j'aime bien les nuages gris, j'aime bien regarder le ciel. Enfin, je trouve ça. Trop beau, fascinant. Voilà, moi ça me fascine. Le ciel me fascine. Vraiment me fascine, subhanallah. Donc, chaque fois par exemple que tu vois le ciel, tu lèves la tête et tu regardes le ciel et tu te dis waouh, mais qu'est-ce que c'est beau, subhanallah. Eh bien, connecte-toi immédiatement à Allah via le dhikr. Tu vois, subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Émerveille-toi. Émerveille-toi de la puissance d'Allah. Ya Rabbi. Subhanallah, c'est trop beau, ya Allah, c'est toi, t'as créé ça, mais qu'est-ce que c'est beau. Ya Rabbi, alhamdoulak, shukr, merci, tu vois, t'as créé ça pour nous, pour l'être humain. Donc connecte-toi à Allah quand tu t'émerveilles de la création. Rappelle-toi qu'il est le créateur. C'est pour ça que c'est bien aussi de faire des randonnées, de se promener, parce que des fois tu vois des merveilles, enfin t'as des belles vues et tout, tu vois la nature, elle est sublime. Et du coup, ça te connecte encore plus à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'émerveilles encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, connecte-toi à Allah subhanahu wa ta'ala quand tu as besoin de le consulter. Tu vois, salat istikhara, pour des mariages, des projets professionnels, ou même des petits dilemmes du quotidien. Vous savez, il y en a, c'était incroyable, c'était incroyable. Une Kaina, ma chère Kaina de « Je peux pas, j'encontre mon mari », qui me raconte un jour, quelqu'un lui a dit, moi, je commence chacune de mes journées avec la prière de consultation. Waouh! Pourquoi? Bah parce qu'en fait, chaque matin, elle se dit, ok, c'est quoi les dilemmes d'aujourd'hui, les trucs que je dois faire, les machins, les doutes, les... Et hop, elle fait ça, elle se dit, là, tac, 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 est-ce que ça vient bien pour moi? La prière de consultation, elle fait. Elle consulte Allah pour chacune de ses affaires de la journée. Elle fait ça tous les matins. Imagine la puissance du lien qu'elle a avec Allah. Genre, moi, j'ai dû faire la prière de consultation, je sais pas. Franchement, j'ai dû le faire ça. Allez, on va dire 10 fois dans ma vie, je sais pas. Enfin, peut-être que j'ai peut-être un peu plus quand même. Quand même. Ouais, un peu plus, mais je veux dire, ça reste exceptionnel. Par exemple, pour le mariage, je l'ai fait. Quand j'avais des prétendants, je faisais ma prière de consultation. Pour des projets pro, pour mes études. En fait, c'était tout le temps pour des événements un peu piliers dans ma vie, des événements dominos, des événements vraiment importants. Mais genre, jamais je vais consulter Allah tous les jours, tous les matins. Tu vois? Et pourtant, il y en a qui le font. C'est un truc de fou quand même. Et bien sûr, tu peux te connecter, tu dois te connecter à Allah subhanahu wa ta'ala chaque fois que tu commets un péché, une erreur, que tu te sens mal, tu culpabilises et tout. Demande pardon, fais de l'istighfar, le repentir, parle à Allah de tes difficultés à arrêter le péché, tes doutes sur toi-même, tes peurs de ne pas y arriver, à quel point tu as besoin de lui, à quel point tu as besoin de ton aide. Tu vois, quand tu es dans cette phase-là de ta vie, parle à Allah. Et je le redis, en vrai, tu parles à Allah tout le temps, chaque fois. Tu vois, fais en sorte de toujours avoir le cœur relié à Allah. Par la parole, les pensées, les actes, mais tu es toujours lié à Allah. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour parler à Allah concrètement? Donc, tout ça, on aborde cette question que maintenant. Non, mais parce qu'attendez, c'est beaucoup. Parce que cette partie, finalement, elle est courte, hein, il n'y a pas grand-chose, enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous allez voir, c'est plutôt rapide. Mais pour moi, le plus important, c'est tout ce qu'on a dit avant, dans le sens où, voilà, c'est, comment dire, développer le bon contexte, bien comprendre pourquoi on parle à Allah, pourquoi c'est important, comment il faut, quand on parle à Allah, comment il faut penser à Allah, enfin, quelle opinion on a d'Allah au moment où on lui parle, tu vois, c'est très important tout ça. Donc voilà, on y vient. Déjà, pour information, peut-être qu'il y en a qui pensent qu'on parle à Allah qu'en arabe. Non, Allah, il comprend toutes les langues. voilà, donc tu parles à Allah, tu peux t'adresser à lui en arabe, mais tu peux tout à fait t'adresser à lui en français. Il y a Allah et tu lui racontes et tu lui parles. Tu peux parler à Allah comme tu parles à ton ami, dans le sens directement. Il n'y a pas besoin, de faire les choses de manière carrée, mais on va y venir aussi. Donc, ce que je veux dire par le faire de manière carrée, ça veut dire les formules d'invocation, les do'as. Bien sûr, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis dans ses hadiths certaines formules d'invocation. Il y en a qui sont absolument sublime. L'idéal, bien sûr, c'est voilà d'en apprendre et de les dire. C'est les meilleurs. Hein. Moi, je pense à, par exemple, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. Ça, c'est une doa qui est belle parce que c'est Ya Allah, donne-moi une belle part ici-bas. C'est complet en fait. Donne-moi une belle part ici-bas et donne-moi une belle part dans l'au-delà et préserve-moi du châtiment de l'enfer, par exemple. Après, voilà, il y a différents types d'invocations, etc. Tu peux trouver les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les apprendre et les ajouter dans des... Les ajouter, en fait, quand tu fais les do'as. Après, si tu ne connais pas, et même si tu les connais, tu peux tout à fait aussi, en même temps, juste formuler tes do'as comme tu le veux, naturellement. Voilà, ça ne doit pas te bloquer. Hein. Bah dis donc, ça a coupé. Mon logiciel d'enregistrement m'a dit « Hey, t'as parlé beaucoup trop. » Donc ça veut dire que j'ai parlé plus de 1h12 parce qu'il est limité à 1h12 d'enregistrement. C'est pas grave. Alhamdoulilah, je m'en suis rendu compte. Attends, j'ai continué un peu à parler dans le vide, mais pas trop longtemps. Donc je reprends et je ferai un montage après pour raccorder les deux parties. Donc ce que je disais, il me semble que je disais que donc l'idéal c'est d'apprendre les invocations. Apprendre certaines invocations du prophète, mais en complément, on peut tout à fait invoquer Allah avec nos propres mots, nos propres termes, il n'y a pas de souci. Hein. On peut lui parler donc très bien en français, en anglais ou en arabe ou n'importe quelle langue. Et voilà, le tout c'est de le faire avec le cœur et de dire, de parler, etc. En tout cas, il ne faut pas se sentir bloqué, il ne faut pas se dire « Ah mais non, en fait, je vais apprendre d'abord les invocations » en arabe, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de commencer à invoquer Allah. Non, c'est faux. Non. Tu invoques directement, tu invoques, tu demandes à Allah, Ya Allah, tu veux le paradis, accorde-moi une belle fin, aide-moi dans ce projet-là, donne-moi ce qui est bien pour moi, etc. Mais c'est vrai que les hadiths, les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont particulières. Elles ont une baraka particulière. Tu sais, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a dit, c'est les meilleures en fait des invocations. Donc l'idéal, c'est de les apprendre, d'en apprendre certaines, etc. Et puis après de compléter, voilà. Mais ça ne doit pas nous bloquer si on ne les connaît pas déjà. Ensuite, concernant maintenant concrètement donc les étapes au moment où on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. C'est marrant parce que j'avais une petite vidéo de, je sais pas où elle est, il faudrait que je la retrouve. J'avais une petite vidéo de Omi qui est à l'hôpital. Je crois que c'était ouais, après une chimio. Et c'est ma petite sœur qui filme. Ma petite sœur justement elle lui demande comment on fait pour faire des doigts. Et ma mère lui explique les étapes. Et c'était une vidéo qui était très émouvante, qui était très touchante, qui était vraiment belle. Elle était courte, hein, mais trop trop belle. On va se baser là-dessus sur un hadith, hein, bien sûr, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'un d'entre vous prie, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il commence par louer Allah subhanahu et faire les éloges d'Allah, puis qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis après cela qu'il invoque par ce qu'il veut. Selon At-Tirmidhi dans Jami' chapitre sur Az-Zuhd. J'ai pas noté de manière précise là le numéro de hadith. Donc tu peux commencer par dire, donc d'abord tu le loues. Tu vois, c'est Ya Rabbi lak alhamdu lak shukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi lak alhamdu lak shukr 'ala ni'mat al-islam wa kafa biha ni'ma. La première invocation que j'ai dit, c'est vraiment je loue Ya Rabbi lak alhamdu lak shukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. C'est je loue Allah sur sa grandeur, sur sa splendeur. Enfin, j'ai pas la traduction exactement. Il me semble que c'est une invocation qui est dans la citadelle du musulman, je pense. Voilà, Ya Allah, lak alhamdu lak shukr ala ni'mat l'islam, wa kafa biha ni'ma, si Ya Rabbi, je te remercie pour le bienfait d'être musulman. Et ce bienfait-là, il suffit amplement déjà, tu vois. Donc je remercie Allah pour ses bienfaits. Après, tu peux remercier Allah pour les bienfaits que tu as donnés. Ya Rabbi, lak alhamdu lak shukr, je suis en bonne santé, j'ai ma famille autour de moi, je suis en sécurité. Ya Rabbi, tu vois, remercier Allah, d'abord, on remercie Allah pour ses bienfaits. Ensuite, on va prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la manière la plus courte, la plus simple, c'est Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Après, tu peux faire la prière, comme on appelle ça, Ibrahimia, tu vois, plus longue. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ahli Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Kama barik ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidu majid. Donc, tu vois, tu peux faire la version, disons, plus longue. Et après, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes. Voilà, tu lui demandes ce que tu veux, etc., etc. Tu vois. Voilà, donc ça, c'est l'ordre. Donc finalement, tu vois, c'est pas très compliqué. Tu le remercies, tu le loues, tu le remercies pour ses bienfaits. Tu fais une salat à la Nabi et tu l'invoques. Voilà, donc ça, c'est quand tu veux lui demander quelque chose de précis. Mais au-delà de ça, tu peux lui parler. Tu peux lui parler tout le temps, tu peux lui parler dès que tu penses à quelque chose. Tu peux te confier à lui à chaque moment. Vraiment, nous, on a malheureusement. Moi, je crois que j'ai cet exemple souvent en tête, hein, mais parce qu'il est très parlant. Nous, il nous arrive un truc, que ce soit positif ou négatif, tout de suite, allô, réflexe, allô, tu vois. J'appelle ma meilleure pote, voilà, je me confie, je raconte à quelqu'un. Alors que nous, ce qu'on devrait avoir, c'est quand il nous arrive quelque chose, que ce soit positif ou négatif, si on lève les mains au ciel et on dit Allah, pas allô, mais Allah, tu vois. Ya Allah, ya Allah, lak alhamdu lak shukr, ya Allah, facilite-moi cette épreuve. Ya Allah, il m'est arrivé ça, alhamdulillah, ya Allah, ta, tu vois. C'est se tourner vers Allah, te tourner vers Allah. Si tu crées ce réflexe dans ta vie de il m'arrive un truc, je me tourne d'abord vers Allah, il m'arrive quelque chose, je me tourne d'abord vers Allah, tu vas créer cette relation belle et riche et profonde, pleine d'intimité, pleine de secrets, tu vois, entre toi et Allah. Et moi, ce que je t'invite aussi à comprendre, c'est que ça, tu peux mettre en place ça tout de suite. Ne te dis pas plus tard, quand je vais arrêter de faire ce péché, quand je vais mettre le hijab, quand je vais faire ça, quand je vais faire ça, quand je vais faire ça. À ce moment-là, je vais commencer à ce moment-là, je m'autoriserai, tu vois, à parler à Allah et tout. Non, là, maintenant, dans le stade où tu es, dans la phase où tu es, dans la religion, dans. En fait, là où tu es, dans les difficultés que tu es dans ta vie de maintenant, dis-toi que maintenant, c'est le bon moment. Tu es à ta place. C'est le bon moment pour parler avec Allah. Au contraire, ben, tu vois, c'est le moment parfait pour parler à Allah, te confier à Allah, aller vers Allah, nouer cette relation forte avec Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est maintenant qu'il faut le faire. Tu vois, ne pas attendre, ne pas machin, ne pas. Non, maintenant, c'est le bon moment. Donc voilà, c'était un épisode quand même assez riche. Je pense pas que je vais le découper, hein. Vraiment, je pense que je vais le laisser comme ça, c'est pas grave, ça fera un long épisode de podcast à écouter en plusieurs fois si besoin. Mais je suis contente parce que, alhamdoulilah, finalement, voilà, c'est un épisode qui a été, comme j'ai dit au début, qui a été un peu difficile parce que, voilà, j'ai eu plusieurs... Vraiment, le chétan, il a fait des pieds et des mains pour que cet épisode ne sorte pas, hein. Donc ça veut dire que vraiment, il est pépitas, ok? Ça veut dire que vraiment, cet épisode est particulier. Parce qu'il a tout fait, tu vois, il m'a fait bugger au début, maintenant il m'a fait bugger vers la fin. Mais alhamdoulilah, après plusieurs jours et tout, alhamdoulilah, l'épisode sort quand même. Et j'espère qu'il vous sera vraiment, vraiment utile. Et moi, en tout cas, il m'a fait du bien, et vraiment, il m'a fait du bien. Et j'espère que votre cœur était bien ouvert pour accueillir tout ça et que vous allez pouvoir bien profiter. N'hésitez pas, hein, franchement, à partager l'épisode avec vos proches, à transmettre aussi de votre côté, et profitez bien de ce mois de Ramadan pour parler à Allah, l'invoquer, l'invoquer, l'invoquer dans les prières, tarawih, en soujoud, quand vous vous promenez, quand vous levez la tête et que vous voyez le ciel, tout le temps pensez à Allah, tout le temps parler à Allah, tout le temps invoquer à Allah. Voilà, sur ce je vous dis, salam alaikum et à bientôt inshallah.